démarrer. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 83 dans la série des cours sur l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Sheikh Salih al-Fawzan dans son commentaire qui s'intitule At-Ta'liq al-Qawim ala Kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. Et donc aujourd'hui on continue qu'est-ce qu'on a commencé d'expliquer au dernier cours, Khutbatul Wada' du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a fait son dernier hajj, le hajj d'adieu, Hajjatul Wada'. Donc il a fait un discours, il a parlé aux sahaba, et parmi les choses qu'il a mentionnées, on est arrivé au point où il donne les conseils au sujet de la femme. Et donc le cheikh Salih al-Fawzan, il fait les commentaires à propos justement de ça, et il a expliqué, comme on a mentionné au dernier cours, à la fin, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la fitna, hein, qui vient par rapport à la femme. Il a dit فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وقال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعد فتنة هي أضر على الرجال من النساء. Donc il a mentionné ces deux hadiths, le premier qui mentionne de prendre garde à la dunya et de prendre garde aux femmes, parce que la première fitna, la première tentation chez les fils d'Israël, c'était à propos des femmes. Et il a mentionné un autre hadith qui dit ensuite qu'il n'a rien laissé de plus dur comme épreuve pour l'homme que la femme. Je n'ai rien laissé après moi comme épreuve plus dure pour l'homme et plus nuisible pour l'homme que l'épreuve de la femme. Et donc, il dit que c'est pour cette raison-là que l'islam préserve, hein, l'honneur de la femme et la protège de tout ce qui peut être une tentation ou une épreuve, hein, à son sujet. Donc il y a des règles dans l'islam par rapport à ces choses-là, et donc il commence à donner des explications plus détaillées sur chaque point. Il dit أن الله شرع للمرأة البقاء في البيت قال سبحانه وقرن في بيوتكن فالأصل في المرأة المكوث في بيتها وهذا هو الأصل وإنما تخرج لحاجتها بضوابط شرعية مأمونة. Donc ça c'est un des principes dans la religion de l'islam, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré à la femme de rester chez elle, de demeurer dans sa maison. Ça c'est la règle de base. La place principale et primordiale de la femme dans l'islam, c'est sa maison. Que ça plaise aux femmes ou que ça ne leur plaise pas, que ça plaise aux ennemis de l'islam ou que ça ne leur plaise pas, ça c'est la religion de l'islam, c'est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a déterminé. Et la preuve de ça, c'est le verset 33 dans sourate Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ » Et ça c'est un verbe impératif dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à la femme de rester ou de demeurer dans sa maison. Hein? Et il dit donc la base pour la femme, c'est qu'elle reste, qu'elle demeure dans sa maison. C'est ça le fondement et le principe de base. Et elle sort de sa maison uniquement pour un besoin quelconque, mais selon les règles de la charia, et lorsqu'elle est préservée et protégée. Il dit ensuite, parmi les exemples de principes qui ont rapport avec l'islam par rapport à la femme, منها أن الله نهاها عن التبرج وهو الخروج بالزينة والطيب. قال تعالى ولا تخرجنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit à la femme de s'exhiber, d'exhiber ses atours, d'exhiber ses charmes publiquement devant les étrangers. Et donc, lorsqu'elle sort de chez elle, elle ne doit pas exhiber ou montrer ses atours, montrer ses parures, ou sortir avec du parfum ou quelque chose qui est semblable. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet-là encore dans le verset 33 dans sourate Al-Ahzab, وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. C'est-à-dire qu'elle ne s'exhibe pas à la manière dont s'exhibaient les femmes dans la période pré-islamique, c'est-à-dire avant l'islam, dans la jahiliya. Et avant l'islam, dans la jahiliya, justement, les femmes avaient une certaine façon de sortir quand elles sortaient de chez elles. Elles portaient des vêtements légers, des vêtements enjolivés. Elles laissaient paraître peut-être une partie de sa poitrine. Elles laissaient montrer ses cheveux, ses charmes et ses bijoux. Et peut-être aussi qu'elle allait se parfumer pour attirer les hommes. Et donc ça, c'est tout ce que les femmes dans la jahiliya faisaient. Et tout ça, ça a été interdit par l'islam. Et donc tout ça, c'est compris par qu'est-ce qu'on appelle at-tabarruj. Même la façon de marcher. Si la femme elle marche dans la rue d'une manière en se dandinant ou bien en se donc ça aussi ça fait partie du tabarruj. Et même les ulama ont cité comme exemple de tabarruj le fait de porter des bijoux qui font un bruit quand elles marchent, comme les Arabes portaient des bijoux comme qu'est-ce qu'on appelle al-khilkhal. C'est un bijou qui est porté à la cheville et que la femme lorsqu'elle marche à chaque pas ça sonne comme des cloches ou comme un petit tintement. Et donc tout ça fait partie de ça. Et donc ça veut dire, et ça c'est mentionné dans le verset, dans le verset justement dans sourate Al-Ahzab, ou dans sourate, si c'est soit dans sourate Al-Ahzab ou l'autre verset dans sourate An-Nur. Mais juste pour vous le lire en même temps, pour que vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il spécifie même que c'est pas seulement az-zina qui est apparente, mais même az-zina qui est cachée, elles ne doivent pas l'exhiber. Et c'est dans le verset, comme je disais, 33 dans Surat Al-Ahzab. Le verset 33, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Ça c'est le verset que j'ai cité tout à l'heure. Mais sinon il y a aussi le verset 59. Bon, le verset 59 c'est celui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Donc il ordonne, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux femmes de porter le djilbab dans ce verset. Et bien entendu le djilbab il a été décrit par les sahaba, et ils ont expliqué que c'était un vêtement ou quelque chose, une couverture que la femme porte par-dessus ses vêtements d'intérieur lorsqu'elle sort. Puis ils ont décrit en détail tout ce que ça signifie. L'autre verset dont je parlais par rapport au khilkhal, c'est le verset dans sourate An-Nur. Et attendez juste un instant, je vais le trouver. Non, c'est le verset 31 dans sourate An-Nur qu'on appelle le verset du hijab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. الخمر c'est le pluriel de khimar. Le khimar c'est qu'est-ce que la femme portait sur ses cheveux. elle portait sur ses cheveux comme un voile, hein, comme un foulard. Puis Allah il dit وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, c'est-à-dire al-juyub, c'est l'ouverture du col, l'ouverture du col. Et aujourd'hui on utilise le terme jayb, hein, pour les poches, mais ça comprend également bien entendu l'ouverture du col ici. Puis elles avaient une ouverture du col assez large qui faisait qu'on voyait, hein, qu'est-ce qu'on dit en français, on appelle la gorge, ou bien disons le torse ou la poitrine. Eh bien elles exhibaient ça, et c'est quelque chose qui bien entendu est une source de fitna et de tentation. Et donc Allah il dit rabattez ce foulard que vous portez sur la tête et descendez-le sur votre poitrine pour pas qu'on puisse voir l'ouverture de votre col. Et donc ça c'est un exemple de règlement par rapport à ça. Et le djilbab va par-dessus le khimar. Le djilbab par-dessus le khimar. Et après il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبَائِهِنَّ أَوْ أَبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أو ما ملكت أيمانهن أو التابعون غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء. Et après il dit ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن, c'est-à-dire qu'elles frappent pas avec leurs pieds pour faire savoir ce qu'elles cachent de leur parure, hein? Donc même la parure qui est cachée et qu'on ne voit pas, on ne doit pas faire du bruit pour la faire entendre. Et puis, que l'esprit de la tête, l'esprit de certaines personnes qui ont peut-être une âme malade, qui vont même commencer à se faire des idées ou fantasmer sur les parures que la femme porte à sa cheville ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est des exemples de choses qui ont été interdites aussi. Et le cheikh dit ومنها أن الله أمر بالحجاب وهو ستر الجسم في حضرة الرجال غير المحارم بما في ذلك الوجه والكفان. وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. Donc le cheikh il explique justement qu'est-ce que j'expliquais, l'ordre que Allah a fait descendre à propos du hijab. Et on sait que le hijab à notre époque, c'est une question qui cause beaucoup de polémiques chez les koufars en particulier, parce que ils font la guerre au hijab et ils détestent la pudeur et la modestie chez la femme musulmane. Et donc ils ont depuis plus qu'un siècle fait beaucoup d'efforts pour essayer de dévoiler la femme musulmane, de lui faire retirer son djilbab et de faire en sorte qu'elle sorte sans se couvrir à la manière des femmes mécréantes de l'Occident. Et ils ont fait beaucoup d'efforts à ce sujet-là durant la colonisation dans les pays musulmans. Et au début, bien entendu, c'était pas de lui enlever son hijab au complet, mais au moins de commencer à faire en sorte à ce que, wa alaykoum salam wa rahmatullah, mais de faire en sorte à ce que la femme au moins couvre pas son visage. Parce que dans la majorité des pays musulmans, les femmes couvraient leur visage. Même dans les pays aujourd'hui, où tu trouves qu'il y a des femmes, par exemple, qui portent pas le hijab du tout. Ou bien, je parle des pays musulmans, hein, certains pays où la femme porte pas le hijab du tout. Ou bien, elle porte ce que les gens aujourd'hui appellent hijab, alors que ça n'a rien à voir. Le petit foulard coloré avec, elles mettent ça sur ses cheveux, mais le reste du corps, il n'est pas couvert. Elle porte des pantalons, puis une chemise normale. Puis elle va mettre juste un petit foulard sur sa chevelure. Puis elle appelle ça hijab, alors que ça ne respecte pas les règles de la charia. Eh bien, ça, c'est le point yani, où on est arrivé à notre époque. C'est-à-dire, c'est là où on en est rendu de l'éloignement des femmes musulmanes de l'ordre hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala de porter le vêtement islamique, hein, le hijab et le jilbab. Mais sinon, à la base, les femmes musulmanes, à la base, elles portaient toutes le jilbab et elles couvraient leur visage. Et ils ont commencé à attaquer ça, le visage et les mains. Puis une fois qu'ils ont réussi à faire enlever à la femme musulmane le niqab ou bien qu'est-ce qu'elle portait sur son visage, eh bien là, ils ont commencé à attaquer yani, le fait qu'elle porte des robes longues ou bien qu'elle porte une couverture qui recouvre le reste de son corps. Et donc, ils l'ont appelé à yani, se découvrir, puis à être libéré, soi-disant libéré, entre guillemets, soi-disant l'émancipation. Et tout ça, yani, c'est bien entendu avec la ruse du shaytan pour égarer les gens et égarer en particulier la femme. Et la corrompre et l'amener petit à petit à de plus en plus se mélanger avec les hommes dans les lieux publics de sorte que yani, elle ne se distingue plus la femme musulmane de la femme non musulmane yani, de la femme athée ou la femme juive ou la femme chrétienne ou les autres parmi les femmes non croyantes et donc le cheikh il explique, il mentionne ces versets là dans lesquels il y a l'ordre que Allah a fait descendre au sujet du hijab, et c'est un ordre qui est clair dans le Coran, mais bien entendu, il faut le comprendre avec les explications qui ont été données par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, et comprendre aussi les explications qui ont été données par les sahaba et les tabi'in qui vivaient à l'époque et qui ont vu comment les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam se couvraient, et comment les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi que les femmes des, et les épouses des sahaba, comment elles se voilaient et c'est de cette manière que les femmes musulmanes doivent se voiler c'est-à-dire que le voile c'est pas quelque chose qui est relatif à comme ils disent, comme l'évolution hein, comme on dit, il faut évoluer les koufars ils disent toujours ça et donc ça a pas rapport avec les règles de l'islam elles sont telles qu'elles sont peu importe l'époque. Et le cheikh il explique le premier verset. Il dit que la femme doit se couvrir son corps en présence des hommes qui ne sont pas des maharim. Al-maharim c'est quoi? C'est les hommes que la femme elle a pas le droit d'épouser légalement à cause des liens de sang qui existent hein, entre elle et ces hommes-là. Comme par exemple les frères, les oncles. Le père, les oncles, et ainsi de suite. Donc, ces hommes-là, la femme, elle n'a pas le droit de les épouser. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas obligée de se voiler devant eux. Mais, lorsqu'elle sort à l'extérieur de sa maison, et qu'elle est en présence d'hommes qui ont le droit de l'épouser, légalement, soit qui ont le droit, dans le sens que, si par exemple elle est mariée, c'est sûr qu'elle n'a pas le droit de les épouser pendant qu'elle est mariée à quelqu'un d'autre, mais si jamais il meurt son mari, ben c'est sûr que là, à partir de ce moment-là, elle aura le droit d'épouser un autre homme. Et donc, quand on parle de ça, c'est des fois il y a des interdictions temporaires, puis il y a des interdictions permanentes. Et donc, quand on parle des maharim, c'est sûr qu'elle n'a pas le droit d'épouser parmi ceux qui sont interdits de façon permanente parce qu'ils ont des liens de sang avec elle ou des choses de ce genre. Ou bien des parents de lait, comme on dit, ikhwa min ar-rida, hein, par exemple, si lorsqu'elle était enfant, elle a allaité ou elle a été nourrie du sein de la même femme que un garçon, donc dans ce cas-là, ce garçon-là sera son frère de lait. Elle n'a pas le droit de l'épouser, mais elle a le droit de se dévoiler devant lui plus tard. Donc ça, c'est des exemples. Mais bien sûr, bon, il y a des règles et des conditions là-dessus, mais le but c'est pas d'expliquer ça en détail maintenant. Il dit bima fi dhalika al-wajh wal kaffan. Il y a il y a une divergence sur ça. Vous savez que il y a certains savants qui considèrent que il est obligatoire à la femme de couvrir tout son corps, la main, les mains et le visage compris. Et que si elle ne se voile pas le visage et les mains, c'est un péché qu'elle fait. Et il y a d'autres ulama, parmi les ulama, qui considèrent que elle doit couvrir son corps au complet, sauf le visage et les mains. Et que le visage et les mains, c'est pas obligatoire de les couvrir, mais c'est recommandé seulement. Et parmi les ulama actuels qui, ou de notre époque, les savants contemporains qui ont élaboré sur ces questions-là, on voit que la plupart des ulama, comme par exemple les machaires comme Al-Fawzan et Cheikh Ibn Baz et Ibn Uthaymeen et d'autres grands ulama parmi les ulama de l'Arabie Saoudite, eux, ils considèrent l'obligation de couvrir le visage et les mains. Cheikh Al-Albani, Muhammad Nasruddin Al-Albani, rahimahullah, lui, il considère pas que c'est obligatoire à la femme de couvrir son visage et ses mains, mais par contre, il considère que c'est préférable et que c'est mustahab, et n'est recommandé. Et que si la femme, elle couvre son visage et ses mains, c'est meilleur que de pas le faire. D'accord? Donc, ça c'est un point important. Puis, les ulama, en fait, quand tu regardes la question de cette divergence, quand ils ont cette divergence entre eux, eh bien, tu constates que ils ramènent les mêmes preuves, les mêmes adillas. Et que ceux qui disent que c'est pas obligatoire de couvrir le visage et les mains, souvent, qu'est-ce qu'ils ramènent comme argument pour dire que c'était pas permis? C'est certains textes dans lesquels on voit que certaines femmes ont décrit leur visage. On décrit leur visage dans le hadith ou quelque chose de ce genre. Et les ulama qui ont interdit de découvrir le visage ou qui interdisent que la femme se montre son visage aux étrangers, ils disent ces textes-là ne sont pas des preuves claires. Pourquoi? Parce que c'est possible que ce soit des textes qui ou des hadiths qui se sont produits avant l'obligation du hijab. Tu vois, c'est-à-dire que ça se peut que ces événements-là se sont produits avant que le hijab soit obligatoire. Il y a d'autres ulama qui ont mentionné aussi comme exemple que ça se peut que ce ne soit pas des femmes parmi les femmes qui sont obligées de se voiler le visage, comme les esclaves. Les esclaves n'étaient pas obligées de couvrir le visage et les mains. Elles n'avaient pas les mêmes règles que les femmes libres. D'accord? Ça c'est Asma, le hadith de Asma. Elle ne doit pas montrer rien excepté ça et ça. Oui. Oui. On va en mentionner quelque chose. Mais en même temps aussi, qu'est-ce que je voulais pas oublier? Les femmes aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans Surat Al-Ahzab, un verset dans lequel il explique que si la femme aussi elle atteint la ménopause, ou bien elle atteint un âge où elle devient vieille et qu'elle désire plus se marier, et les hommes ne désirent plus non plus se marier avec une femme comme elle parce que elle a atteint un certain âge, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il a permis à ces femmes là qu'elles ne se voilent pas le visage et les mains, mais que si elles désirent continuer à le faire, c'est mieux pour elles. Et ça c'est dans Surat An-Nur aussi, je pense, c'est pas dans Al-Ahzab, je me trompe encore, c'est dans An-Nur. Donc je vais vous montrer le verset en question, et les ulama ils le citent souvent comme preuve, justement pour confirmer ou supporter la preuve du djilbab pour la femme, et la preuve aussi qu'elle doit se couvrir le visage. Le verset, c'est le verset 60 dans Sourate An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wal qawa'id min an-nisa. Al qawa'id, c'est les femmes qui ont atteint un certain âge et les hommes sont plus intéressés à se marier avec elles, et elles n'ont plus, elles ressentent pas le besoin de se marier. Ou allati la yarjuna nikahan. OK. Il dit fa laysa 'alayhinna junahun أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة أن يضعن ثيابهن. Et quand tu regardes dans le tafsir, Abdullah ibn Abbas et d'autres parmi les sahaba ont expliqué que أن يضعن ثيابهن, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas obligées à partir de cet âge-là de se couvrir le visage et les mains, hein? Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, غير متبرجات بزينة, sans toutefois exhiber leur parure. Et il dit ensuite, وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ. Et la traduction de ça, ils disent, et si elle cherche la chasteté, malgré qu'elle a le droit de ne plus couvrir le visage et les mains, mais qu'elle désire continuer à le faire par chasteté quand même, par la suite, c'est mieux pour elle. وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ. Les ulama, ils ont dit, si c'est mieux pour une vieille femme qui n'est pas attirante pour les hommes de continuer à se couvrir et d'être chaste, que dire d'une jeune fille dans la puberté ou l'âge de l'adolescence, ou bien quand elle a par exemple 18-20 ans. C'est l'âge où les hommes en général sont le plus attirés par elle, parce qu'elle est dans la fleur de l'âge, comme on dit. Et donc c'est encore plus important pour elle de se couvrir à cet âge-là que à l'âge où elle est passée, hein, l'âge de se marier ou d'avoir des enfants. Parce que la plupart des gens, quand ils se marient avec une femme, une des raisons, c'est d'avoir des enfants. Si la femme a sa ménopause et elle ne peut plus avoir d'enfants, les hommes ne seront pas intéressés à l'épouser. Tandis que la jeune fille qui est en forme et qui est... Hein, l'âge de procréer et tout, donc dans ce cas-là, c'est quelque chose qui incite les hommes à vouloir se marier avec elle. Donc ça, c'est un exemple des preuves qui sont mentionnées. Le premier verset que le cheikh il mentionne à propos du hijab, c'est le verset 53 dans sourate Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. Donc ça signifie, et si vous leur demandez une chose quelconque, demandez-leur de par derrière un rideau. Demandez-leur de par derrière un rideau. Et cela est plus pur pour leur cœur, c'est-à-dire le cœur des hommes qui vont demander, وقلوبهن, et leur cœur à elles. C'est plus pur pour leur cœur à eux et leur cœur à elles. C'est ça ce que ça signifie. Et le cheikh il dit ce verset-là, et pour comprendre en fait, c'est que les hommes venaient demander des choses aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y avait pas de rideau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, Omar ibn al-Khattab, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a n'importe qui rentre chez toi, des fois des gens pieux, des gens pervers, ou on ne sait pas. Donc, yani, ce serait mieux que yani, y ait un rideau qui empêche les hommes de les voir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset-là, qui était en accord justement avec la parole de Omar ibn al-Khattab à ce sujet. Et donc, à partir de ce moment-là, lorsque les gens voulaient venir demander quelque chose aux mères des croyants, eh bien, ils demandaient de par derrière un rideau. Ils ne les voyaient pas. D'accord ? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, cela est plus pur pour leur cœur à eux et pour leur cœur à elles. C'est-à-dire, eux, c'est les sahaba, et elles, c'est les mères des croyants, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les ulama ont dit, si c'est plus pur pour les cœurs des sahaba, qui ont le cœur le plus pur des hommes, et plus pur pour elles, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les femmes les plus pures, alors c'est encore plus important pour nous, à notre époque, ou à l'époque des époques qui viennent après celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est encore plus important pour nous de purifier notre cœur et de s'éloigner justement de ce genre de tentation-là, en faisant en sorte qu'il y ait ce genre de hijab, qu'il y ait ce genre de rideau, ce genre de barrière qui empêche les hommes justement de voir les femmes étrangères. Il dit « وَقَالَ تَعَالَى وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. OK, ça c'est là qu'on arrive à C'est là qu'on arrive à qu'est-ce que tu voulais dire. Oui, c'est bon. Comme ça, barakallahu fik. Donc, c'est là qu'on arrive à se poser une question que tu m'as posée tout à l'heure par rapport au hadith de Asma bint Abi Bakr. Le verset que le cheikh il cite ensuite, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ et dit aux croyantes qu'elles rabaissent de leur regard et qu'elles préservent leur partie intime, c'est-à-dire qu'elles s'abstiennent de faire des turpitudes. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا et qu'elles n'exhibent et qu'elles ne montrent de leur parure ce qui en paraît, que ce qui en paraît. Et c'est là que certains ulama ont dit que ce qui en paraît, comme Abdullah ibn Abbas, il a dit le visage et les mains, dans une narration, dans une des narrations. Et d'autres ont dit c'est al-malabis. Al-malabis. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Illa ma zahara minha, c'est-à-dire ce qui en paraît par accident ou par erreur, ou des choses de ce genre. Ou bien leurs vêtements qu'elles portent en dessous du djilbab, ce qui en paraît. Et certains ulama qui justement prennent la position que c'est permis pour la femme de montrer son visage et ses mains, ils citent le hadith de Zainab, pas de Zainab, de Asma bint Abi Bakr. Et le hadith de Asma, Asma c'est qui premièrement? C'est la grande sœur de Aïcha radiallahu anha. Elle est plus âgée que Aïcha. Et il dit, dans le hadith, ça dit qu'elle est rentrée chez Aïcha radiallahu anha, et supposément qu'elle portait un vêtement qui était transparent ou quelque chose comme ça. Puis, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lorsqu'une femme atteint un certain âge de la puberté, il n'est pas permis qu'elle laisse paraître, accepter ceci et ceci en voulant dire son visage et ses mains. Et les ulama, ils ont déclaré que ce hadith, il n'est pas authentique, il n'est pas sahih. Et la raison pourquoi il n'est pas sahih pour des narrateurs dans l'isnad, qui sont daïf, et aussi parce qu'il y a une qita, il y a une coupure dans la chaîne de transmission du hadith. C'est-à-dire le narrateur qui le rapporte, le hadith de Aïcha radiallahu anha, il n'a jamais rencontré Aïcha radiallahu anha. Donc, le hadith, les ulama ont dit qu'il est daïf, comme Cheikh Ibn Baz, il a clarifié ça dans son explication à ce sujet-là. Et en plus, si on regarde même la signification du hadith, la femme, Asma bint Abi Bakr, elle est une sahabiya, une femme qui est plus âgée que Aïcha radiallahu anha, elle est la femme de, je pense c'était la femme d'Abdullah ibn Zubayr. Donc elle était au courant de ces règles là. C'est pas possible qu'elle vienne avec des vêtements comme ça, elle rentre chez Aïcha radiallahu anha de cette façon. Donc certains ulama ont dit que c'est pas possible que ce soit qu'elle soit habillée avec ces vêtements là et qu'elle ignore ces règles là. Et de toute façon, même si le hadith, comme on dit, même si cette histoire était vraie, le hadith il est pas authentique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être vrai. Et même Cheikh Al-Albani, quand il l'a mentionné, il a dit qu'il est Hassan li-ghayrihi. Il a considéré Hassan li-ghayrihi. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Hassan li-ghayrihi? C'est-à-dire qu'il n'est pas bon en lui-même, mais par rapport à d'autres narrations qui viendraient supporter sa signification, qui l'élèveraient au niveau de Hassan. D'accord? Et certains ulama ont discuter justement cette parole de Cheikh Al-Albani au sujet de ce hadith pour clarifier que le hadith il n'est pas authentique du tout, et donc on ne peut pas l'utiliser comme argument et comme preuve, surtout qu'il y a d'autres hadiths et d'autres versets dans le Coran qui sont clairs et qui viennent contredire la signification de ce hadith là. Et certains ulama ont même mentionner des arguments rationnels aussi pour justifier que, ou pour prouver que cette permission-là est pas en accord avec la position, c'est-à-dire que cette position-là elle est fausse. Ils disent par exemple le fait que quand si on dit que par exemple la femme pourrait montrer son visage, la plupart des ulama qui disent qu'on peut montrer le visage de la femme, ils sont tous d'accord que c'est interdit pour elle de montrer ses pieds. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit, si c'est permis à la femme de montrer ses pieds, c'est pas permis à la femme de montrer ses pieds, mais ce serait permis pour elle de montrer son visage. Donc ils ont dit, qu'est-ce qui est plus une cause de tentation pour les hommes? Est-ce que c'est les pieds d'une femme ou son visage? Et donc, la plupart du temps, la beauté d'une femme, elle se trouve dans son visage. Si tu vois une femme, mais tu vois pas son visage, tu la vois au complet, mais tu vois pas son visage, tu vas jamais être satisfait tant que tu n'as pas vu son visage. Donc ça, c'est la preuve que c'est ça qui est le plus important. Et donc, de pouvoir voir son visage, c'est très important. Tandis que si tu vois juste ses pieds, si tu ne peux pas voir ses pieds, les pieds, ce n'est pas une si grande tentation que ça. Donc ça veut dire, ça c'est un argument que les ulama ont mentionné pour dire, si on n'a pas le droit de voir les pieds, eh bien c'est sûr que le visage est une plus grande source de fitna, et donc c'est encore plus important de le voiler que de voiler les pieds. Non. Après le cheikh, il dit, وَمِنْهَا أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَا عَنْ سَفَرِ الْمَرَأَةِ وَحْدَهَا بِدُونِ مَحْرَمْ ونهى عن خلوة المرأة مع الرجل غير المحرم مع الرجل غير المحرم فقال صلى الله عليه وسلم لا يخلون أحدكم بالمرأة فإن الشيطان ثالثهما. Donc le cheikh, il dit que la femme, elle n'a pas le droit de voyager seule sans la présence de mahram avec elle. La femme n'a pas le droit de voyager seule sans la présence d'un mahram avec elle. Et il a interdit également à un homme de rester seul dans une pièce avec une femme s'il n'y a pas un mahram avec elle. Un mahram, on l'a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire un homme qu'elle n'a pas le droit légalement d'épouser. Donc, le cheikh, il explique ça, puis après il dit... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith qui est rapporté par An-Nasa'i selon Jabir ibn Samura, il dit que nul d'entre vous reste seul avec une femme parce que le troisième d'entre eux, c'est le shaytan. Que nul d'entre vous reste tout seul avec une femme dans une pièce parce que le troisième, c'est le shaytan. Donc tu n'as pas le droit de rester isolé, seul, avec une femme étrangère. Et le cheikh, il dit aussi, وَمِنْهَا أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَا عَنِ اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ فَشَرَعَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّي خَلْفَ الرِّجَالِ وَلَا تَخْتَلِطُ بِصُفُوفِ الرِّجَالِ وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ بُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ والآن يحاول المستغربون كسر هذه الحواجز كلها بإملاء من الكفار ليفسدوا مجتمع المسلمين. Donc le cheikh, il dit également, parmi les règles de l'islam, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux femmes de se mélanger aux hommes, et il a légiféré que la femme prie derrière les rangées des hommes et qu'elle ne se mélange pas aux rangs des hommes dans la mosquée, dans la prière. Et malgré cela, il a dit, et leur prière chez elles est meilleure pour elles. Et donc les ulama, ils ont expliqué que le meilleur endroit pour la femme, c'est sa maison. Et ils ont dit, le meilleur lieu sur terre, c'est la mosquée. Khayrul biqa'i ila Allah. Al-Masajid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs lieux sur terre, c'est les mosquées. Et lorsque tu regardes, même dans le meilleur lieu, l'endroit où on vient pour adorer Allah, Allah nous a interdit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'être mélangés ensemble. Et donc les ulama ont dit, si dans le meilleur endroit sur terre, on n'a pas le droit d'être mélangés ensemble, alors que dire de se mélanger dans des endroits où on est plus loin d'Allah que la mosquée. Par exemple, dans la mosquée, disons qu'on est plus près d'Allah parce que on entend le rappel d'Allah, on fait la salat, on entend les khutab, on entend les durus, on se rappelle d'Allah constamment, on est loin des tentations et des désirs. Tandis qu'à l'extérieur de la mosquée, il n'y a rien qui nous rappelle de ces choses-là, ou bien beaucoup moins que dans la mosquée. Et dans la meilleure des endroits, Allah il nous a séparés, les hommes et les femmes séparés. Donc c'est plus important de se séparer à l'extérieur que de se séparer dans la mosquée. Et c'est ça que les ulama ont mentionné, c'est comme un qiyas aulawi. En voulant dire, si dans la mosquée, on ne doit pas être mélangé alors que c'est un endroit pur, alors que des endroits à l'extérieur où il n'y a pas justement toute cette protection-là, c'est encore plus important qu'il n'y ait pas ce genre de mixité et ce genre de mélange. Toutefois, comme le cheikh l'explique ici, les gens parmi les musulmans qui ont été occidentalisés, ils essaient de briser ces barrières que l'islam a établies pour protéger les femmes et protéger la société. Et ils essaient de corrompre les musulmans et les sociétés musulmanes en suivant ce que les koufars leur dictent de faire. Et donc ça c'est très grave et c'est très dangereux. Donc il ne faut pas essayer, comme par exemple, il ne faut pas se laisser influencer parce que les koufars par exemple, ils disent non, il faut mélanger les hommes et les femmes. Il ne faut pas se laisser influencer par les gens qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'est-ce qu'ils veulent nous imposer. Si tu vois par exemple dans les pays musulmans actuellement, la plupart des pays musulmans, ils ont malheureusement désobéi à ces principes-là. La plupart des écoles, du primaire jusqu'à l'université, tu trouves la mixité partout. Les garçons et les filles sont mélangés, excepté peut-être l'Arabie Saoudite où une femme peut étudier du primaire, même la maternelle, jusqu'à l'université, même au doctorat, puis elle n'aura jamais contact avec un homme. Hein? Donc ça, c'est l'exemple que l'islam a enseigné, et c'est cet exemple-là que les musulmans doivent respecter et suivre, pas seulement en Arabie Saoudite, mais dans tous les autres pays musulmans, sans exception. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans, ils se sont trompés de Qibla. Hein. Au lieu de prier vers. Ils prient vers la Kaaba, mais quand c'est les questions d'idées et de principes et de mode de vie, ils se tournent vers l'Occident, au lieu de se tourner vers la Mecque. Donc c'est ça qui est un problème. Donc si tu es un mu'min, tu es un croyant, tu te tournes vers ta religion et vers les enseignements d'Allah. Et tu prends tes principes et tes croyances et tes idées et ta façon de vivre de ce que Allah t'a révélé et non pas de ce que les ennemis d'Allah t'ordonnent de faire. Hein? Après, le cheikh il dit « فَالشَّارِعُ وَضَعَ هَذِهِ الضَّوَابِطِ لِأَلَّا تُصْبِحَ الْمَرْأَ فِتْنَةً وَشَرًّا عَلَى الْمُجْتَمَعِ ولذلك أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال استوصوا بالنساء خيرا أي اقبلوا الوصية فيهن فلا تظلموهن بحقوقهن لأن المرأة ضعيفة فلا يجوز أن يستغل الرجل قوته وسلطته بحكم أنه الزوج أو الولي فيتعسف في هذا الحق فيضر بالمرأة ويظلمها وفي المقابل يجب أن يقوم بواجب القوامة ولا يهملها ويترك الحبل لها على الغارب لأنه مسؤول عنها أمام الله قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ومن القوامة منعها مما يضر بها وبالمجتمع. Donc le cheikh il explique que le législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi ses règles et ses principes pour protéger la femme et les hommes et la société, et pour pas que la femme devienne une tentation, une source de tentation et de mal pour la société. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint à la femme et aux musulmans en général lorsqu'il a dit ça dans son discours d'adieu. il a dit, je vous incite à agir bien envers les femmes. Je vous donne ça comme, hein, comme règle à suivre, comme principe. Et ça, c'est comme un testament qu'il nous laissait. C'est comme un testament qu'il nous laissait. Je vous donne comme dans le testament que je vous laisse, vous devez bien vous occuper de la femme et être bon avec elle. C'est-à-dire de ne pas leur faire d'injustice et d'établir leurs droits. Hein? Parce que la femme, elle est faible. Et le fait que l'homme soit fort ou qu'il ait une autorité sur elle du fait que c'est son mari ou son responsable, son père ou autre, eh bien, il ne doit pas abuser de ça et se permettre de faire du tort à la femme ou de lui faire une injustice à cause de cette autorité qu'il a sur elle. Et en même temps aussi, par opposition à ça, il est obligatoire pour lui de remplir son devoir de qawwam, c'est-à-dire que l'homme dans l'islam, c'est lui qui est responsable et c'est lui le chef et c'est lui le responsable de la femme. Donc il ne doit pas abandonner ou négliger cette responsabilité-là et ce devoir qu'il a. Parce que c'est une responsabilité qu'il a devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une chose que beaucoup de gens oublient. Hein? Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et la femme, il a créé l'homme comme étant un responsable de la femme. Et si la femme s'égare, ou si la femme tombe dans l'erreur, ou fait des... elle commence à s'égarer, c'est le devoir de l'homme de la préserver, de la protéger, et de la ramener sur le droit chemin. Mais qu'est-ce qu'on constate? Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui ne réalisent pas que si l'homme ne remplit pas ou ne respecte pas ses responsabilités envers la femme, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va demander à l'homme des comptes. Pourquoi il a négligé la femme? Pourquoi il ne s'est pas occupé d'elle? Pourquoi il ne l'a pas empêché de faire ce qui lui fait du tort ou de faire ce qui fait du tort à la société? Hein? Et ça, c'est quelque chose, les koufars ne croient pas en ça. Et c'est pour ça que les koufars les disent aujourd'hui, l'homme et la femme ils sont égaux dans leurs droits et dans leurs responsabilités. C'est pas vrai. L'homme et la femme, ils n'ont jamais été égaux. Et ils ne seront jamais égaux. Peut-être que dans certaines règles et dans certaines choses de la vie, oui, ils ont certaines égalités. Même dans la religion, il y a certaines règles dans lesquelles l'homme et la femme sont égaux. L'homme et la femme doivent faire la salat. Ça, c'est vrai. L'homme et la femme, ils doivent faire le wudu. Ça, c'est vrai. L'homme et la femme, ils doivent payer la zakat. Ça, c'est vrai. Et ainsi de suite. Il y a des choses qui sont dans lesquelles on est égaux. Mais il y a des choses dans lesquelles on est différent aussi. Et dans lesquelles il n'y a pas d'égalité. Et donc, quand on dit aux koufars, non, on n'est pas d'accord avec les féministes ou avec les koufars qui disent l'homme et la femme sont égaux, on dit, on n'est pas d'accord avec vous lorsque vous dites l'homme et la femme sont égaux d'une égalité absolue et totale dans toute chose. Parce que cette égalité absolue, elle n'existe pas même entre les hommes. Elle n'existe pas même entre les femmes entre elles, ni entre les hommes entre eux. Hein? Même entre les fruits, même entre les animaux. Exactement. Il n'y a pas d'égalité absolue. Hein? Est-ce que tous les hommes sont égaux entre eux? Hein? Non. Celui qui est gros, il est égal avec celui qui est maigre. Celui qui est grand, il est égal avec celui qui est nain. Celui qui est blanc, il est égal avec celui qui est noir. Il est pareil. Non, il y a des différences. Celui qui est beau, il est égal avec celui qui est laid. Hein? Si tu dis par exemple, tu mets deux personnes, hein, tu dis à une femme, choisie qui tu veux épouser. Un qui est riche, et qui est beau, et qui est pieux, et l'autre, il est laid, il est pauvre, et il fait des péchés. Est-ce que les deux ils sont égaux? Non, ils ne sont pas égaux. Et même dans l'au-delà, on n'est pas égaux. Même les prophètes ne sont pas égaux. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, hein, il y a un verset dans surat al-Baqarah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit, « Tilka al-rusul faddalna minhum yani tilka al-rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. » وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Ça veut dire que même entre les prophètes, il y en a qui ont été favorisés et préférés sur d'autres. Il y en a certains à qui, il y en a certains d'entre eux, yani Allah leur a parlé. Naam, Moussa alayhi salam et Ibrahim, yani Ibrahim c'est Al-Khalil. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi, Allah lui a parlé, et Adam. Donc c'est pour dire que les prophètes ne sont pas tous égaux, mais ils sont tous, yani, comme on ne fait pas de divergence entre eux, on ne va pas faire de préférence à un sur l'autre, mais ils ne sont pas tous égaux. Le prophète, le meilleur prophète, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ne sont pas tous égaux. Et dans l'au-delà, on n'est pas tous égaux non plus. Même dans l'enfer, les koufars, il y a des niveaux de profondeur de l'enfer, et tout le monde n'a pas le même châtiment. Et dans le paradis, même dans le paradis, les croyants ne sont pas tous égaux. Il y en a qui sont plus élevés dans le Firdaus, ils vont avoir la plus grande récompense. D'autres vont avoir une récompense moindre. C'est pour dire qu'il n'y a pas d'égalité, dans ce sens-là. Dans cette vie d'ici-bas, la même chose. Les hommes, il y en a qui sont forts physiquement, il y en a qui sont faibles. Il y en a qui ont une bonne vue, d'autres ne voient pas aussi bien que d'autres, et ainsi de suite. Donc, tu vas dire, oui, mais ça, ce n'est pas dans les droits et dans les obligations. Devant la loi, soi-disant, on est tous égaux. C'est ça ce que les koufas disent, l'égalité des droits et de devoirs. Mais l'inégalité qu'on a dans nos différences physiques et sociales, ça a des effets sur l'égalité sur le plan des idées ou le plan des droits aussi. Par exemple, si tu dis par exemple, tout le monde a le droit de devenir ingénieur. Tout le monde a le droit de devenir ingénieur. Ok? Mais tu vas voir quelqu'un qui n'est pas intelligent ou qui n'est pas fort intellectuellement, tu lui dis, tu as le droit de devenir un ingénieur, est-ce qu'il est capable? Ça veut dire que le fait d'avoir le droit, ça ne veut pas dire que tu peux. Donc c'est ça, aussi ça c'est une chose. Subhanallah, il faut tenir compte de ça. Le fait que tu aies le droit de faire quelque chose, c'est quelque chose d'abstrait. Ça ne veut pas dire que tu peux le faire vraiment. D'accord? Si tu dis par exemple, un nain, tu as le droit de jouer dans la NBA. Mais est-ce qu'il va faire grand chose là? Est-ce qu'il pourra faire quelque chose dedans? Non. Exactement. Donc, le fait qu'on soit différent, ça a un impact sur la réalité. Et quand on dit par exemple, les hommes et les femmes sont égaux. Pourtant, ils sont différents. Par exemple, l'homme, il n'a pas d'utérus. On n'a pas d'utérus. J'aurais jamais le droit de porter un enfant dans mon ventre, même si je veux. D'accord? La femme, elle a, dans ses seins, elle a du lait, elle peut nourrir le bébé. Elle a un avantage sur moi par rapport à au fait de nourrir un enfant. Je ne pourrais jamais l'égaler dans ça. Donc il y a une inégalité ici. Le problème aussi, c'est que parfois les koufars, ils veulent faire en sorte que la femme, elle devienne un homme. Et pour arriver à ça, ils veulent, par exemple, dévaloriser le rôle de la mère et le rôle de la femme, le rôle d'épouse. Et parler de ça comme si c'était quelque chose de mauvais, quelque chose de dégradant. Quelque chose qui la rabaissait. Donc, par exemple, ils disent, la femme, avant, à l'époque, c'était c'est comme une manufacture à faire des bébés, la femme était une poule pondeuse, des choses de ce genre. Pourquoi ils parlent comme ça du fait d'enfanter et d'être une mère et d'avoir une famille? C'est pour la faire voir son rôle de mère comme étant quelque chose de dégradant, comme si quelque chose qui vaut rien. Et ils disent, c'est mieux que la femme, elle soit indépendante, elle soit libre, elle ne soit pas reliée à un homme ou à une famille ou à un mari, et qu'elle puisse faire tout ce qu'elle veut et vivre comme elle veut, indépendamment de l'homme, comme un individu à part entière, et de dire, après ça, elle va travailler, puis elle va se satisfaire ses besoins elle-même. Et après, tu dis, La femme, elle va travailler dans un restaurant ou dans un magasin ou des choses comme ça. Peut-être elle va servir les clients, elle va passer le balai par terre, elle va nettoyer et tout ça avec le sourire et avec la gentillesse et tout, parce qu'on lui donne un salaire. Puis, quand elle rentre à la maison, elle n'est pas capable de faire la même chose. Elle se plaint, elle crie, ou bien elle ne fait pas qu'est-ce qu'elle doit faire. Et puis elle sourit pas à son mari, tandis qu'elle va sourire au client, hein? Même si des fois elle a pas envie. Donc tu vois que il y a quelque chose là-dedans. C'est pas normal cette histoire de droit de la femme et d'égalité et de tout ça. Donc nous on dit il y a pas cette égalité là. Il y a cette complémentarité entre l'homme et la femme, que l'homme complète la femme. C'est comme tu prends une pomme et une orange, tu dis est-ce que la pomme est meilleure que l'orange, ou l'orange est meilleure que la pomme. La pomme et l'orange sont deux fruits différents, mais chacun il a sa caractéristique, hein? Donc tu vas pas dire que un est meilleur ou moins bon, même si Allah il a préféré l'homme à la femme, il l'a favorisé, mais dans le sens que l'homme, Allah l'a créé d'une façon. Et c'est par sa sagesse qu'il a créé différemment de la femme. Et c'est par sagesse aussi qu'il a créé la femme différemment de l'homme. Et si il les a créés différents, c'est pour qu'ils aient des rôles différents. Parce que s'il n'aurait pas voulu qu'ils aient des rôles différents dans la société, il les aurait créés pareils. Hein? Donc chacun, Allah l'a créé d'une façon pour une sagesse. Mais les koufars, ils ne croient pas en cette sagesse. La raison pourquoi ils ne croient pas en la sagesse, c'est parce qu'ils pensent que l'homme est venu du hasard. Que c'est le Big Bang, les matières qui ont explosé, puis que les cellules, à partir d'une cellule dans la mer ou dans l'océan, qui s'est multipliée par hasard, qui est devenue une bactérie, puis après 90 000 milliards d'années, cette bactérie s'est par enchantement reproduite elle-même, mais parce que c'est après des milliards et des milliards d'années-lumière, bon, ça devient possible, comme si le temps rendait la magie possible de cette façon. Et après, finalement, le poisson est apparu quelques milliards d'années après. Puis le poisson est devenu un amphibien, sorti de la mer, une autre espèce est apparue. Le lézard est apparu par la suite, après le crapaud, le... Ouais. Et après, après les plantes sont apparues, les arbres ont poussé. Puis les lézards ont monté dans l'arbre, puis par hasard les ailes ont commencé à sortir. Et là, il y en a qui ont commencé à voler. D'autres sont devenus des singes. Et oui, c'est ça. Et puis après, à partir du singe, eh bien, il y en a une autre partie parmi les singes qui a commencé à vouloir attraper des roches par terre. Puis, étant donné qu'il ne pouvait plus tenir ses pattes par terre, donc il a commencé à se tenir debout. Puis, à force de rester debout, son cerveau s'est développé différemment après des 50 millions d'années. Puis là, il est devenu, comme on dit, le homo erectil. Je ne sais pas comment il l'appelle, l'homo sapiens par la suite. Hein? Mais oui, c'est ça. Tout ça, c'est de la foutaise. Tout ça, c'est n'importe quoi. Franchement. Hein? Tout ça, c'est pour éliminer chez les enfants et chez les gens en général l'idée que Allah existe et que c'est lui qui a tout créé. Et donc, pourquoi on mentionne ça? C'est que pour eux, l'homme et la femme, et le fait qu'il y ait un homme et une femme, c'est le résultat d'une évolution aveugle qui est venue par hasard et qu'il n'y a pas de raison pourquoi c'est arrivé, mais c'est juste comme ça. Donc il n'y a pas une sagesse derrière la création de l'homme, il n'y a pas une sagesse derrière la création de la femme, il n'y a pas un rôle spécifique à l'homme et il n'y a pas un rôle spécifique à la femme. L'homme peut agir comme une femme s'il veut, la femme peut agir comme un homme si elle veut, et il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. À la fin, il n'y a pas de différence entre... Il y a même pas, bon, on dirait que même ils veulent éliminer même les sexes. Et qu'on fasse une distinction entre le sexe mâle et le sexe femelle, pour eux, c'est maintenant vu comme qu'est-ce qu'ils appellent du sexisme ou de la discrimination. Et donc, tout ça, c'est une, vraiment, franchement, Allah musta'an, vraiment une ruse du shaitan pour essayer d'égarer les gens. Donc, on dit, oui, il y a des égalités dans certaines choses dans l'islam et dans d'autres choses. Quand on regarde la nature de l'homme et la nature de la femme, on voit qu'il y a une sagesse, comment Allah les a créés les deux différemment, et pour une raison bien claire, c'est pour qu'il y ait un équilibre dans la société, pour qu'il y ait un équilibre dans la famille, hein, et pour qu'il y ait une harmonie dans la vie, entre l'homme et la femme et la société. Eux, ils ne veulent pas de ça. Ils veulent tout chambouler et tout déranger, comme ça. Mais non, donc le cheikh, il dit... L'homme, il est responsable de la femme. Il a cette responsabilité de la femme. Et c'est lui qui doit s'occuper d'elle. Même si ta femme, elle est riche, elle est milliardaire, c'est toi qui es responsable de lui donner ses vêtements, de la nourrir, de la vêtir, loger. Et elle garde son argent. Elle n'a pas l'obligation ou le devoir de te donner un sou pour payer ces choses-là, parce que c'est ta responsabilité en tant qu'homme devant Allah de lui fournir ces choses-là. Mais si elle veut t'aider là-dedans, volontairement, c'est une sadaqa. C'est comme si elle te donnait une sadaqa. Parce qu'elle n'a pas l'obligation de le faire. Hein? Mais aujourd'hui, non. Les hommes, ils veulent profiter de la femme. En réalité, c'est ça, derrière toute cette histoire de vouloir libérer la femme, c'est en fait pour mieux pouvoir la contrôler, mieux pouvoir l'opprimer, mieux pouvoir la contrôler, profiter d'elle, jouir d'elle, hein, sur tous les plans. Et la traiter à la fin comme une paire de chaussettes. Quand ils ont fini de jouir d'elle, ils s'en débarrassent, ils la jettent. Allah al-Musta'an. Et donc ça, c'est des gens, ils sont comme des loups, hein, des loups à peau de mouton. Ils se présentent comme les défenseurs des droits de la femme, et de la liberté, et de l'émancipation, et de tous les beaux mots qu'ils ont inventés. Puis en réalité, tout ça, c'est juste pour essayer de l'égarer, profiter d'elle, hein, et après, de la jeter comme si rien n'était. Donc le cheikh, il dit... Ensuite, وقوله أخذتموهن بأمانة الله أي ائتمنكم الله عليهن ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض فلا تزوج المرأة إلا بمن يتصف بصفتين الدين والأمانة فإذا اتصف بهاتين الصفتين صار كفءا للمرأة أما إذا لم يكن أمينا فإنه لا يزوج أو كان أمينا لكن دينه ليس بالقوي فإنه لا يزوج لما يترتب على ذلك من المفاسد. Donc le cheikh il explique que vous les avez pris ces femmes par le dépôt et le gage que Allah vous a donné. C'est une responsabilité qu'il vous donne. Alors, Allah vous a fait confiance, il vous a confié ces femmes, vous a donné ces femmes-là comme un dépôt que vous devez garder. Et c'est pour ça qu'il dit, lorsque vous vient un homme dont vous êtes satisfait de son comportement et de sa religion, alors épousez-le. C'est-à-dire, donnez vos filles à cet homme. Si vous ne le faites pas, c'est-à-dire, si l'homme, il vient avec un bon comportement et une bonne religion, il vient vous demander votre fille et vous le refusez, eh bien, il y aura dans ce cas-là beaucoup de fitna. Il y aura des épreuves et des tribulations sur la terre et beaucoup de désordre. Donc, il dit, si un homme n'a pas ces deux caractéristiques-là, la religion et al-amana, c'est-à-dire le fait d'être respectueux de ses responsabilités, et de ses engagements, eh bien, s'il n'a pas ces deux caractéristiques-là, il n'est pas apte ou il n'est pas la personne qui est, qui est correcte pour cette femme. S'il est amin, Par exemple, s'il n'est pas amin, c'est-à-dire il n'a pas il ne respecte pas ses engagements, il ne respecte pas les gages et la confiance qu'on lui fait, on le marie pas. Ou s'il est amin, il respecte son engagement, mais il est faible dans sa religion, il ne pratique pas sa religion, dans ce cas-là, on ne doit pas non plus le marier, parce qu'il y a des méfaits là-dedans. Il y a quelque chose de mauvais là-dedans pour la femme. Et il dit, وَقَوْلُهُ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ أي بِعَقْدِ النِّكَاحِ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الْفُرُوجِ التَّحْرِيمِ ولا يحل منها شيء الا بالعقد الشرعي الصحيح وهو كلمه الله عز وجل وهي الايجاب والقبول مع وجود الولي والشهود ثم امساك بمعروف او تسريح باحسان مع القيام بنفقتهن وكسوتهن وسكنهن. Donc le cheikh il dit, et on vous a rendu licite leur partie intime par la parole d'Allah, c'est-à-dire par le contrat de mariage. Et il dit qu'à la base, les parties intimes sont interdites et rien n'en est permis excepté par un contrat légal et valable, hein, selon la charia, et c'est établi par la parole d'Allah. Et c'est le fait que il y a l'ijab ou al-qaboul. Al-ijab ou al-qaboul, c'est quoi? C'est que le père, le wali, il dit au prétendant, Zawajtuka binti, je te donne ma fille en mariage. Et le prétendant, il dit, Kabiltu, al-ijab ou al-kaboul. Ça, c'est un des piliers du contrat de mariage en islam. Ma'awujud il-wali, avec la présence du wali, bien entendu, celui qui est le gardien légal de la femme. Et aussi, washuhud, il faut qu'il y ait des témoins. Et après il dit ثم امساك بمعروف او تسريح باحسان, c'est-à-dire cette femme que tu vas épouser, bien entendu le cheikh il n'a pas mentionné arveda, mais ça c'est quelque chose qui est connu que dans l'islam il faut qu'il y ait la satisfaction et l'agrément des deux époux. L'homme doit être satisfait d'épouser cette femme et la femme doit être satisfaite d'épouser cet homme. Si il n'y a pas cette condition-là, dans ce cas-là, le mariage ne sera pas valable. Hein? Et aussi, il dit, imsakun bi ma'ruf, c'est-à-dire cette femme, si tu la gardes et tu restes avec elle, tu la traites bien et tu agis bien avec elle. Ou tasrihun bi ihsan, ou bien tu la laisses partir et tu la lâches avec bonté et bienfaisance. Tu ne vas pas la garder pour lui faire du tort. Comme par exemple, il y a des hommes, ils sont fâchés, ou ils veulent se venger de la femme. Donc ils ne l'aiment pas, ou bien ils sont fâchés avec elle, ils veulent s'en débarrasser, ou bien ils veulent la divorcer. Mais pour leur faire plus de mal, et pour les opprimer, ils les divorcent pas, puis ils les traitent mal, et ils leur font de l'injustice. Donc ils ne veulent pas les laisser aller, sans leur faire du tort. Et ça c'est de l'injustice. Donc Allah il dit, فَإِمْسَاكُنْ بِمَعْرُوفِ, soit tu la gardes et tu la traites correctement, ou bien tu la laisses partir avec douceur, avec gentillesse, avec bienfaisance. Hein? Mais tu ne vas pas la garder, tu lui fais de l'injustice. Et il dit, et aussi tu dois lui donner sa nafaqa. Nafaqa, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a de besoin, tu dépenses pour elle, pour sa nourriture, et tout ce qu'elle a de besoin comme traitement, médicaments ou autres, hein, des choses qu'elle a de besoin. Ou kiswatuhunna, c'est-à-dire les vêtements que tu dois payer pour elle pour qu'elle se couvre. Ou suknuhunna, c'est-à-dire où est-ce qu'elle va habiter dans ta maison, tu dois lui donner sa demeure. Tu es responsable de ça, c'est ton devoir et ta responsabilité. Aïnam. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et on continuera ça le prochain cours, Inch'Allah. Donc, 83 aujourd'hui. Je ne sais pas, je vais peut-être le poster cette semaine, Inch'Allah, avant de partir. Donc, peut-être lundi ou mardi, je vais l'envoyer au responsable puis du site, puis il va le mettre sur le site bien. Inch'Allah, je pourrais t'envoyer le lien. Il faudrait que tu le télécharges par la suite. Mais sinon, il va être sur le site, il n'y a pas de problème. Le cours 83, tu vas le trouver sur le site normal. طيب donc on s'arrête ici inshallah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.